Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Bienvenue dans l'émission Espace Femmes qui traite des questions qui concernent les femmes dans les différents domaines. Aujourd'hui, le thème de l'émission tourne autour de la question de gouvernance et les femmes fonctionnaires. Les femmes dans les instances de prise de décision, quelles sont les avancées? C'est sur ce thème que l'émission de ce soir se portera. Au Niger, les femmes ont commencé à marquer leur présence dans les instances gouvernementales dans les années 1987. Deux ans plus tard, elles ont commencé à se faire compter parmi les représentants du peuple avec l'adhésion de la première femme députée au sein de l'hémicycle national en 1989. L'émergence de la femme nigérienne dans les institutions de l'État s'agrandit avec l'adoption de la loi sur le quota qui a vu le jour en 2000 avec une représentativité de 25% à 30% pour les postes électifs et de 15% à 25% pour les postes nominatifs. Mais force est de constater que dans plusieurs services, le respect de ce quota reste à désirer, ce qui nous amène à constater une faible progression du nombre des femmes dans les institutions. Quelles sont les actions qui doivent mener les femmes leaders pour que la représentativité et le maintien de la femme dans les institutions de l'État soient rehaussés? Comment les femmes travailleuses apprécient-elles l'apport des organisations féminines pour accroître le nombre des femmes dans les services de l'État? La question du manque de solidarité entre les femmes revient toujours. Comment faire pour que les femmes s'acceptent et s'entraident pour aller de l'avant? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres qui seront posées dans ce forum, nous avons invité Hassana Fall, chef de projet à l'ONG Femmes Action et Développement. Nous avons aussi invité Madame Thiari Fall Mata de la société civile et enfin de Madame Hawassadou Amadou de la direction de la protection des droits des femmes au ministère de la promotion des femmes et de la protection de l'enfant. Merci de votre présence, je suis Rafika Taher pour la modération de cette émission. Nous allons commencer par vous, Madame Hawa. Pouvez-vous nous faire la situation de la représentation des femmes dans les différents secteurs au Niger?
Par rapport à la situation de la représentativité des femmes dans les différents secteurs au Niger, nous allons tout d'abord commencer par la loi sur le quota de 2019 qui a passé de 17% à 30% actuellement. C'est vraiment une avancée. Et pour le poste nominatif, le quota n'est pas respecté, puisque nous avons seulement 5 femmes ministres sur 33. Dans les institutions, il y a également une sous-représentation des femmes.
Madame Thiari, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le nombre de femmes a augmenté ou bien qu'il est en régression?
Et je vous remercie d'abord de nous avoir invités sur ce plateau de Radio Kalangou. Il faut aller remonter. Et en 1991, tout a commencé, c'est la date phare, c'est le tournant, si vous voulez, avec la conférence. Nous avons une seule direction, il n'y avait même pas de ministère de la promotion de la femme, ni encore moins celui de la population. Et c'est en ce moment-là que cette direction a été érigée en ministère d'abord, avant de penser aux femmes. Et il n'y avait qu'une seule association féminine, l'AFN, puis suivi du RDFN, Rassemblement démocratique des femmes du Niger et de la CONGAFEN. Et avec toutes ces associations, nous avons lutté pour arriver au quota, pour ne pas rentrer dans les détails. Le chiffre a augmenté, évidemment, parce qu'en ce moment, il y avait une seule femme députée. Et comme elle l'a dit, maintenant, nous avons 50 femmes députées. Donc, il y a une évolution sur ce plan-là. Mais le problème, le hic, c'est au niveau des postes de décision et des postes de direction, etc. Nous avons 5 femmes ministres sur 33. Vraiment, c'est macabre, c'est lamentable. Le quota n'est pas respecté. C'est pour cela que nous avons ces chiffres-là. Parce que tout se situe au niveau des partis politiques. Au lieu d'encourager les candidatures féminines, ils préfèrent encourager les candidatures masculines, même au niveau des postes législatifs. Et vous avez vu, même pour les élections locales, nous avons... Et 1212 femmes élues, avec des maires confondus, sur 40246, il y a peu de maires femmes. Donc, il y a une évolution, évidemment. Mais c'était 536 il y a 4 ans, mais maintenant c'est 1212. On voit une évolution nette, mais jusqu'à présent, il reste du travail à faire. Et il y a des femmes directrices, etc., etc., on leur donne des directions, mais il y a toujours un travail à faire à la base, non seulement au niveau du parti politique, mais aussi au niveau du gouvernement. Parce qu'il faudrait rejeter des listes qui n'encouragent pas les candidatures féminines. Et l'État, c'est comme s'ils sont complices, ils préfèrent quand même avoir plus d'hommes que de femmes pour des raisons que vous connaissez. Et vous connaissez les femmes, on dit on part beaucoup à la maternité. Donc, il y a beaucoup d'accouchements, etc. On demande beaucoup de permissions, nous sommes absentéistes. C'est les raisons fallacieuses qu'ils apportent. D'accord. Il reste encore un travail à faire à la base.
Madame Hassana, qu'est-ce qui est à la base de cette évolution plus ou moins positive?
À la base, vraiment, je dirais que c'est l'apport surtout des OSC en ce qui concerne le renforcement des capacités des femmes. Par exemple, si je prends le cas de l'ONG FAD, donc quand on a commencé les activités autour des élections, on a renforcé beaucoup les capacités des femmes en ce qui concerne l'incubation des candidates. On les a soutenues, les sensibilisations aussi. On a même instauré une salle spécialement pour les candidates chez nous. Donc, que ce soit sur la prise de décision, la communication, il y a aussi ce qu'on appelle les univers des femmes en politique. Ce sont des rencontres qu'on a organisées durant cette année, la 12 univers des femmes en politique. Donc, voilà, pour faciliter les échanges et tout pour les femmes. On les a aussi renforcées, on les a appuyées à financièrement.
Ça, ce sont les actions voilà, que vous menez pour que le nombre soit rehaussé.
Pour que ça soit rehaussé. En tout cas, l'ONG FAD a fait de son mieux pour que les femmes soient prises en compte. Voilà, dans les instances de prise de décision surtout.
Combien de femmes à peu près avez-vous eu à recevoir dans vos locaux justement pour ce rehaussement?
Ok, donc je dirais, en tout cas, on a reçu pas uniquement les femmes de Niamey, même celles de l'intérieur du pays, à savoir Maradi, Zender, Difa, et les 8 régions du Niger, que ce soit en ville ou bien dans le milieu rural, on a invité des femmes qui sont venues. Donc, je n'ai pas exactement le nombre, mais je dirais qu'on a formé en tout cas
à peu près
1000 et quelques femmes candidates. Voilà.
D'accord. Madame Kiari, vous voulez rebondir sur...
Oui, c'est pour la compléter. Et évidemment, il y a eu des renforcements de capacités, comme elle l'a dit, mais c'est surtout une sensibilisation. Et la femme ne connaissait pas ses droits en matière de politique. Elle ne sait pas qu'elle doit voter, elle ne sait pas qu'elle doit se présenter. Et n'est-ce pas, même surtout les analphabètes, les femmes rurales, elles peuvent être conseillères, elles peuvent être députées. Et il y a un quota pour ça. Mais elles ne le savaient pas. Donc, on a fait une large sensibilisation pour les encourager. C'est des femmes leaders. Elles ne savent même pas qu'elles sont leaders. Il y a eu des sensibilisations, des renforcements de capacités sur le genre, sur le leadership, etc. C'est tout ça, cette lutte-là, qui a fait que le nombre a augmenté. Parce que la femme, vous savez, elle a peur, elle est timide. On a toujours mis les hommes en avant-garde. Nous sommes toujours en arrière-plan. Alors, on a attiré leur attention pour dire pourquoi pas. Il faut qu'on joue des coudes aussi pour qu'on soit en avant-garde. Les hommes nous font souvent la guerre pour qu'on soit toujours derrière. Mais maintenant, on a compris, à diplôme égal, salaire égal, à diplôme égal, poste égal, etc., etc. Nous avons les mêmes droits. On ne peut pas dire que nous sommes égales à l'homme, la même force, mais quand même, nos droits-là, il faut qu'on l'arrache. Il faut qu'on montre aux hommes aussi que nous sommes capables.
Les femmes sont souvent victimes de discrimination par leurs collègues hommes sur les lieux de travail, ce qui les décourage pour certaines à montrer leur capacité pour aller de l'avant. Quels conseils à leur endroit?
Les femmes ont toujours été discriminées sur le lieu de travail. Elles sont discriminées, elles sont violentées. Le conseil, c'est que nous allons vraiment sensibiliser les femmes pour ne pas pleurnicher. Vraiment, elles n'ont qu'à défendre, elles n'ont qu'à prouver aux hommes qu'elles-mêmes, elles sont capables et qu'elles ne sont pas là pour subir des stress ou bien des violences. Elles n'ont qu'à combattre les hommes, les arrêter, ne vraiment être au-dessus de leur faiblesse féminine. Elles n'ont qu'à vraiment s'imposer. Merci.
D'accord. Madame Kiari, avez-vous quelque chose à dire sur la question? Des femmes qui sont victimes de discrimination sur leur lieu de travail.
Oui, c'est vrai, elles sont stigmatisées, elles sont marginalisées, écartées et de par leur statut. Et la femme même a peur. Donc, on a vu des situations où, quand on part en mission, c'est toujours les hommes qui sont chefs de mission. La femme n'a jamais été chef de mission. C'est comme si elle ne peut pas gérer le carburant ou bien le petit capital qu'on donne, le fonds de roulement pour aller en mission. Donc la femme même se laisse faire. Donc si on se met en avant-garde, si on se défend, on a les mêmes droits que sur le plan de travail. Mais beaucoup ne comprennent pas. Dès qu'elle voit un homme gros, musclé, tout ça là, elle se met de côté. Pourquoi pas? Donc, il faut quand même casser ce mythe-là. Le mythe de l'homme en avant, il faut que la femme soit aussi en avant-garde dans les services. Il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes, parce que la femme n'a pas confiance en elle-même. Le tout, c'est une question de confiance. On n'a même pas confiance en nous-mêmes, à plus forte raison avoir confiance à quelqu'un. Donc, nous-mêmes, on ne se fait pas confiance. Donc, il faut qu'on se fasse confiance. Notre statut de femme ne nous permet pas d'être en arrière-plan sur le plan de travail. Et il faudrait que nos chefs de service aussi comprennent qu'il ne faut pas nous écarter, il ne faut pas nous stigmatiser, il ne faut pas nous mettre à l'écart. Il faut nous encourager parce qu'en fait, nous sommes stressés. Et si la femme s'absente, c'est elle qu'on rembroue. Mais si l'homme s'absente, non, on ne le rembroue pas. Donc, même pour les punitions, n'est-ce pas, il y a une certaine inégalité. Donc, vous voyez, c'est ça surtout qu'on vit dans nos services.
D'accord. Madame Hassana, y a-t-il d'autres difficultés liées à la participation des femmes dans les services de l'État au Niger?
La difficulté, je dirais, c'est toujours la même, celle que vous connaissez. C'est l'intégration, au fait. L'implication, je dirais, l'intégration. Vous pouvez... Comme l'a dit Tanti, donc, je dirais que les femmes... Elles ont ce problème de complexe. Genre, je ne peux pas faire. Non, j'ai peur de cet homme-là. J'ai peur. Non, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Il faut faire preuve de capacité, si je peux le dire. Tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire. À diplôme égal, chance égale, donner la chance aux femmes de s'impliquer, de faire preuve de leur capacité. En tout cas, la femme est capable.
D'accord. Pour rehausser le quota des femmes dans les fonctions électives et nominatives de 15 à 25% et de 25 à 30%, le Niger a adopté la loi sur le quota en 2000. Plus de 20 ans plus tard, les femmes sont encore sous-représentées. Selon vous, le quota est-il vraiment respecté?
Le quota n'est pas toujours respecté parce qu'il y a toujours cette phase de discrimination. Les discriminations existent vraiment, réellement. Si nous prenons, par exemple, lors de nomination, il y avait des femmes qui ont bâti très bien campagne. Elles ont eu amené beaucoup d'électorats, beaucoup de voix. Mais malheureusement, vous voyez, c'était un combat auquel on avait terrassé beaucoup de femmes. Genre, ce sont les hommes qui ont occupé des postes de décision, les postes décisionnels, mais les femmes étaient mises à l'écart. Elles ont eu à essayer d'ester en justice, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Voilà, et l'exemple est là, et l'exemple palpable, il est là parce que il y a 5 femmes députées, n'est-ce pas, sur 33 ou 36. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Alors que, du côté ministre, alors que c'est pas normal parce qu'il y a des femmes qui ont battu campagne plus que les hommes. Elles sont parties dans les zones d'insécurité même. Vous voyez, elles ont mis leur vie en danger et vraiment, elles ont ramené beaucoup de voix, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte.
Oui, Madame Kiari.
Et il y a un problème latent, c'est-à-dire, quand une femme a gagné, elle a eu beaucoup de voix par rapport à un homme, on la négocie pour qu'elle cède son poste à l'homme. On la corrompt, même des fois. On lui miroite de l'argent, on lui miroite des biens matériels, etc. Il y en a qui cèdent, mais il y en a aussi qui ne cèdent pas, et ça les conduit même en justice, comme l'a dit ma fille à côté. Et c'est ça surtout qu'on vit, qu'on est en train de... Les hommes sont complices. On préfère, en tout cas, en général, on préfère l'homme à la femme. Comme dans les familles, l'homme préfère avoir un garçon qu'une fille. Donc, c'est la même chose, l'histoire se répète. C'est la même chose qui se répète politiquement.
Oui, mais Madame Kiari, au moment des campagnes, les politiciens crient haut et fort pour promouvoir les places des femmes au lieu qu'il faut. Mais avec tout cela, vous dites que les femmes sont sous-représentées.
Ce n'est que du maquillage. C'est-à-dire, ils crient, ils hurlent, mais au finish, ils font leur jeu. C'est un jeu qu'ils font. Ils font semblant. Et au lieu de, sur les listes, au lieu même de mettre les femmes en tête de liste, au lieu même pour les propositions des ministres, ils ne proposent même pas les femmes. Les partis politiques surtout, j'ai les index, ils proposent les candidatures masculines plutôt que féminines. C'est ça le problème. D'accord. C'est ça le grand problème.
Oui, Madame Hawa.
Donc moi, ce que je voudrais ajouter par rapport au quota des femmes, vraiment, cette année, le quota au niveau du poste législatif, le quota a été bel et bien respecté. Le quota est respecté, on est même au-delà du quota. Mais ce qui s'est passé, comme ma grande sœur a eu à le dire, c'est le maquillage. Le quota a été respecté parce que ils ont l'obligation de respecter le quota. La liste qui n'a pas respecté le quota est même systématiquement rejetée. Donc, ils ont été obligés de respecter le quota cette année. Nous, on nous a mis seulement pour respecter les formalités. Mais maintenant, c'est les hommes qui ont porté les voix plus que les femmes en réalité. Parce que la population est déjà corrompue. La population, on l'a habituée à la corruption. Jusque-là, c'est celui qui, les élections, on les paye. Celui qui donne beaucoup d'argent, c'est lui qui remporte les voix. Mm-hmm. Vraiment, et c'est les hommes qui ont financé. Ils ont plus d'argent que nous. Ils ont investi. Mais maintenant, au retour, nous, les femmes qui ont bâti campagne, on ne considère pas le résultat que nous avons apporté. Comme c'est eux qui ont financé beaucoup plus d'argent, les femmes qui luttent pour le développement, ce ne sont pas celles-là qui sont proposées.
J'aimerais ajouter au fait concernant le maquillage, certes, ça a été toute une série de maquillages. Par exemple, si je prends le cas de l'ONG FAD, nous, on a même signé une convention avec bon nombre de partis politiques, 33 partis politiques de tous bords, donc concernant l'implication des femmes, le respect aussi du quota au sein même du parti politique. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Parce qu'il y avait aussi une série de suivis. Donc, on a fait le suivi, mais quand même, qu'est-ce qu'on a constaté? Vraiment, ça n'a pas été pris en compte. Certes, il y avait quelques partis qui ont pris ça en compte, mais vraiment, ils ne sont pas nombreux.
Le vrai visage de l'Assemblée aurait pu être autre. Et au Niger, nous sommes 52% des femmes. Normalement, à l'Assemblée, c'est l'inverse qui devait se faire. Au lieu d'avoir 50 femmes sur 166 députés, on devait avoir plus de femmes que d'hommes députés à l'Assemblée. Et si vous avez remarqué, il n'y a jamais eu de femme présidente de l'Assemblée. Et pourquoi pas? Jamais. Il n'y a jamais eu de femme gouverneure, sauf une seule, qui a siégé un an ou deux. Après, on l'a dégommée, on ne l'a pas remplacée pour une femme. Il y a des postes comme si on masculinise les postes. Il y a des postes qui ne sied qu'aux hommes. Et pourquoi pas aux femmes? Il y a des postes que c'est un homme qui doit l'occuper. Pourquoi pas la femme? Il n'y a jamais eu de femme premier ministre au Niger. Pourquoi pas? Pourtant, il y a eu des Indira Gandhi, des je ne sais pas moi, etc. Mm-hmm. etc. Et il y a eu des femmes au monde qui sont même présidentes. Bon, je ne vais pas dire qu'il faut une femme présidente au Niger parce que l'islam peut-être ne le permet pas. Mais au moins une femme premier ministre, chef de gouvernement quand même.
Cette volonté des politiciens lors des campagnes de vouloir mettre les femmes à la place qu'il faut, que faire pour que cette volonté soit une réalité?
Il faut qu'il y ait un travail à la base. C'est à la base qu'il faut travailler. Il faut sensibiliser la population, les femmes, pour qu'on n'accepte pas la corruption à la base. Tant qu'on accepte cette corruption à la base, faire de porte en porte, distribuer de l'argent dans les maisons pour dire élisez un homme plutôt qu'une femme, vraiment, et le quota ne sera jamais respecté.
D'accord. Quel regard faites-vous de la situation des femmes fonctionnaires au Niger?
Bon, elle était macabre, elle était lamentable, mais avec toutes ces sensibilisations, avec le travail des OSCE, etc., des sensibilisations, etc., vraiment, on peut dire qu'on est satisfaite à moitié. À moitié, hein, j'ai dit, à 50%. Donc, il nous reste encore du travail à faire. Et il faut que les hommes, avec les femmes, on se met main dans la main pour travailler. D'accord. Et puis pour se comprendre.
D'accord.
Il ne faut pas qu'on se torpille à gauche et à droite. Mm-hmm. Il faut quand même, pas dire avoir pitié de la femme, mais quand même, il faut tenir compte de la composante féminine pour le développement de ce pays-là.
Madame Hawa, le problème de sous-représentativité des femmes dans les institutions reste toujours d'actualité. Comment les femmes doivent-elles agir pour que leur voix soit entendue?
Pour que la voix des femmes soit entendue.
Entendue dans les institutions.
Entendue dans les institutions, il faut sensibiliser la femme pour qu'elle mène des luttes pour améliorer leur situation au niveau de prise de décision. Elles doivent amener vraiment une offensive.
Madame Hassana, selon vous, quel changement la participation des femmes dans l'exécutif peut apporter dans la vie des autres femmes?
Moi, je dirais que ça peut servir d'exemple. Parce que si ces femmes-là, qui sont dans les instances de prise de décision, qui sont déjà placées, font preuve de dynamisme, et surtout qu'elles sont très actives, donc ça peut servir à ces femmes-là qui ont l'ambition d'être à leur place, de pousser de l'avant. Je veux devenir comme tel ministre, je veux devenir comme tel. Donc je pense que c'est ça. C'est pourquoi on encourage vraiment les femmes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour pouvoir booster leurs frères ou leurs soeurs plutôt, qui ont l'ambition d'être à la place qu'elles sont actuellement.
Oui, elle a raison. Parce qu'elles seront une référence dans leur village. Elles seront les femmes leaders. Et les parents qui sont réticents pour la scolarisation de la jeune fille, ça va booster cette scolarisation parce qu'ils ont vu la fille d'un tel est ministre, la fille d'un tel est parlementaire. Et là, la réticence va s'en aller d'elle-même. Donc, ils vont quand même, ça va booster la scolarisation de la jeune fille, même s'il y a quand même une avancée sur cette scolarisation-là. C'est surtout au niveau rural que ça joue. Une femme ministre, quand elle vient dans son village, elle est ministre, elle aide ses parents, elle aide tout le village. Donc, ça va encourager les villageois à placer leurs filles dans les écoles, à les scolariser. Parce qu'il y a toujours des réticences.
D'accord. Je reviens vers vous, Madame Hassana. Quelles sont les actions que vous menez pour que la représentation des femmes dans les institutions de l'État soit rehaussée?
Au niveau de l'ONG FAT?
Oui, au niveau de l'ONG FAT.
Au niveau de l'ONG FAT, je dirais que c'est toujours les actions de sensibilisation, le renforcement des capacités et aussi les rencontres. On regroupe des femmes on invite par exemple une femme leader pour qu'elle leur serve d'exemple et les inspire.
D'accord. C'est surtout ça. Est-ce que les femmes sont satisfaites des actions que vous menez en leur faveur?
Oui, très bien, parce que je dirais même maintenant, les actions de les renforcements de capacité, les femmes y réclament. Elles réclament parce qu'elles ont trouvé ça très important. Donc, tout le temps. Et même quand on a fait le renforcement des capacités des candidates, et jusque-là, on n'a pas baissé les bras. Celles qui sont élues, on est en train aussi, on a continué de les coacher. Jusque-là, on les sensibilise, on les forme sur leur rôle et responsabilité, les redevabilités et tout ce qui s'ensuit.
D'accord. Avant de poursuivre les discussions, je vous propose de suivre les témoignages.
Le leadership des femmes n'est pas développé à Agadez. C'est une chose très rare. Ce n'est pas visible. Il fait face à des obstacles. L'on constate une faible lutte des femmes pour accéder à des postes de décision. Je ne sais pas si c'est la politique qui les bloque ou bien c'est un manque de volonté de la part de ces femmes. Mais ces deux dernières années, nous avons remarqué que les femmes sortent pour parler sur des problèmes qui surviennent dans la ville, dans le département ou dans la région d'Agadez en général. Voilà ce que je peux dire par rapport au leadership des femmes.
Je peux dire que c'est une chose très bien pour les femmes, car arrivé à un moment, il y a des postes où il faut forcément une femme. Parce que si tu as un problème et que tu l'exposes à ta camarade femme, elle pourra te comprendre et trouver une solution. C'est pourquoi moi, je suis vraiment ravie qu'il y ait des femmes dans les services. Au moins, elles t'écoutent et vont trouver solution à ton problème. Et tu sauras que tu n'es pas venu pour rien.
Vous savez, les gens ont leur perception des choses. Chacun a sa propre vision de la vie. Certains pensent que la femme ne peut pas diriger, soit disant que la femme ne connaît rien. Honnêtement, si quelqu'un est chef d'un service, qu'il soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Fais ton travail seulement tout en respectant les règles.
Il y a certaines femmes, quand elles bossent et que ce sont elles les responsables, elles sont très réticentes du fait qu'une autre femme puisse elle aussi se frayer un chemin au même endroit. Et quand c'est une femme qui est à la tête d'un service ou d'une entreprise, elle va bien exécuter ses tâches et en toute honnêteté, sans faire de caprices ou encore de la paresse. Elles sont très rigoureuses, les femmes, quand elles travaillent, et elles le font avec acharnement.
Nous pouvons dire Dieu merci, on enregistre des avancées, mais jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé à un niveau souhaité. Mais petit à petit, on remarque que les femmes s'impliquent dans la gestion administrative. De nos jours, dans chaque institution étatique, il y a des femmes et des hommes, mais le nombre de femmes est insuffisant. La loi sur le quota réserve 25% des postes électifs aux femmes. De ce point de vue, nous pouvons dire que ça va vraiment au niveau de la région de Dosso.
Madame Kiari, quelle est votre réaction par rapport à ces propos qu'on vient d'écouter?
On parle surtout tout tourne autour de la femme. Nous avons vu que la femme est un couteau à double tranchant. Et beaucoup ont plaidé pour la femme chef de service. Ils ont dit que un service, s'il veut qu'il marche bien, il faudrait, si une femme est à la tête de ce service-là, ce service marche très bien, d'accord. Mais en général, la femme, c'est l'ennemi aussi de la femme. C'est un couteau à double tranchant. On peut trouver des femmes qui sont très, très bien, très honnêtes. Et aussi, on peut trouver des femmes méchantes, malhonnêtes. Donc, c'est un couteau à double tranchant que Dieu nous a donné. Dieu nous a créé comme ça.
Et comment faire pour restaurer cette solidarité entre les femmes?
Une sensibilisation. Et il faudrait le faire, même si on est chef de service, on a besoin d'un renforcement de capacité.
Donc c'est la sensibilisation qui revient toujours, c'est le seul moyen.
C'est le seul moyen, la sensibilisation, le renforcement de capacité en leadership, en genre, en ceci, en cela, parce qu'un service se constitue d'hommes et femmes. Et qui dit genre dit hommes et femmes. Donc, et handicapés, les personnes en situation de handicap, les non-voyants, etc., etc. Donc il faut tenir compte de toute cette composante de la société et il faut que nous, femmes, on prouve qu'on est capable. Il faut qu'on fasse confiance aux gens et qu'on nous fasse confiance nous-mêmes. Sinon, on ne va jamais submerger, sinon on ne va jamais sortir notre tête hors de l'eau.
D'accord. Madame Hawa, avez-vous quelque chose à dire sur la question? Quelle est la stratégie pour restaurer la solidarité entre les femmes?
Avant de répondre à la stratégie de la solidarité entre les femmes, je voudrais vraiment un peu vous éclairer et les actions du ministère par rapport à l'émergence des femmes. Donc, au niveau du ministère, pour vraiment améliorer la situation des femmes, nous avons élaboré un programme national pour la promotion des femmes dans les instances de prise de décision. Le programme est en train d'être mis en œuvre. Il y a des aspects de renforcement de capacité. Il y a aussi des appuis de formation en sensibilisation, l'encadrement des femmes dans tout aussi. Par rapport à votre question de solidarité entre les femmes,
restaurer la solidarité.
Pour restaurer la solidarité entre les femmes, il faut sensibiliser les femmes, toutes les femmes, de s'accepter entre elles, de s'entraider, de ne pas considérer sa semblable femme comme une éventuelle coépouse, vraiment, et d'aider ses semblables à sortir dans le sous-développement. C'est effectivement ça.
D'accord.
Par rapport à la solidarité féminine, donc j'aimerais parler sur un point, sur ce point-là exactement. Parce que nous, même cette partie-là, on n'a pas épargné. Parce qu'on a eu à faire deux éditions de solidarité. C'est une activité qu'on a fait de rencontre. On a regroupé pas mal de femmes, de différents bords plutôt, qui ont eu à discuter entre elles. Donc, nous sommes à la deuxième, on avait fait la deuxième édition et c'était un cadre d'échange à travers lequel les femmes ont vraiment échangé entre elles. Voilà ce qu'il faut pour ne pas tirer vers le bas sa sœur. Ce n'est pas bon de le faire parce que ça n'arrange pas les femmes. Ça constitue en fait un frein pour le développement de la gente féminine. On est en train de se battre pour que la femme puisse émerger. Et si tu considères comment on appelle ça? Si tu considères une autre femme comme ta pire ennemie, vous ne pouvez pas avancer. Vous risquerez de tout perdre. Les deux, toutes les deux, vous allez perdre. C'est pourquoi on a fait cette rencontre-là d'échange dont on a fait la deuxième édition et on va aller au-delà de ces deux éditions qu'on a eu à réaliser, Inch'Allah.
D'accord. Avant de continuer, suivons maintenant le portrait de Madame Rahila Toussoumana. Elle est rédactrice en chef adjointe de Studio Kalangu.
Âgée de 41 ans, mariée sans enfant, Madame Rahila Toussoumana est journaliste au Studio Kalangu. Après ses études primaires et secondaires à Niamey, Rahila Tou s'est inscrite à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTI, de 2012 à 2015, où elle obtient une licence en journalisme, une filière que la vie lui a imposée. Elle nous raconte.
Par hasard, je suis allée à l'IFTI. Et un de nos enseignants nous disait qu'il y a des Blancs qui ouvrent une nouvelle radio qui s'appelle Kalangu. Ça faisait rire les gens, mais on le prenait quand même au sérieux. Donc, c'était le soir même qu'ils allaient clôturer le dépôt des dossiers. J'ai quand même tenté le coup. J'ai déposé mon dossier. Ils nous ont rappelé pour faire le concours. Et c'est parti de là. Disons que le journalisme s'est tombé sur moi comme ça. Mais c'est quand même quelque chose que j'aime parce que ça te cultive. Et tu es obligé de toucher à tous les sujets, même si tu t'y connais pas vraiment, tu es obligé d'apprendre, de t'instruire, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je n'ai jamais imaginé un jour que je serais devant le micro, qu'on m'appelle Madame Journaliste, non. Mais maintenant que je suis dedans, je trouve que c'est un métier noble. Vraiment, chapeau aux journalistes parce qu'ils sont souvent confrontés à certaines situations. Le travail n'est pas facile. Surtout pour les femmes, dans les médias, elles sont confrontées à d'énormes contraintes face aux hommes qui ne leur facilite pas la tâche.
Après être responsable de plusieurs postes, dévouée et consciencieuse, Madame Rahila Toussoumana est aujourd'hui rédactrice en chef adjointe en seconde au Studio Kalangu depuis 3 ans.
Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Déjà, je ne suis pas la plus expérimentée de la maison. Je suis venue directement de l'école à Kalangu. 4 ans après, j'ai ce poste. C'est pas facile, mais je m'accroche quand même. C'est vrai qu'il y a des critiques par-ci, par-là, ça manque pas. Mm-hmm. C'est la nature de l'homme. Mais j'y tiens et ça marche. Tout ce que je sais, c'est que j'applique ce que j'ai appris. Il n'y a pas de sentimentalisme dedans. En gros, mon rôle, d'abord, on est 2 adjoints, donc c'est à nous de diriger la conférence de rédaction le matin. On propose des sujets, on en débat pour dégager les angles de traitement. Avant 17h, on finit de corriger, on distribue les papiers, les lancements. Et là aussi, on continue la supervision jusqu'à à la fin de l'enregistrement. De l'autre côté, il y a l'équipe du numérique aussi qui produit des articles, qui produit des vidéos, soit des reportages, soit des interviews. Un regard là-dessus, il faut corriger, valider avant qu'il ne balance ça sur les réseaux sociaux et sur le site. Je suis très fière de ce que je fais. Vraiment, je pense que j'ai avancé normalement. De reporter, j'ai passé à présentatrice de journal. Ensuite, j'ai été un bout de temps webmaster. Ensuite, on m'a proposé la présentation du forum. Ensuite, j'ai été promue chef d'édition. Après, il y avait un département pour les femmes. J'ai été à la place de coordinatrice pour les productions des femmes avant de rejoindre la rédaction.
Mustapha Mamansani, rédacteur en chef adjoint, apprécie le courage de sa collègue.
Rahila Toussoumana fait partie des toutes premières personnes avec lesquelles j'ai eu à travailler. Mais très vite, il faut se le dire que j'ai été impressionné par sa vision, et le sens organisationnel de son travail, mais aussi et surtout sa façon de vouloir apprendre. C'est aussi cette façon pour elle de partager aussi ses connaissances. J'ai eu à apprendre avec elle. Quand elle apprend quelque chose avec moi, c'est qu'elle retient cela et qu'elle fait en sorte qu'elle dissémine ça avec tous ceux qui veulent apprendre avec elle. Très organisée et méthodique dans son travail, c'est ce qui m'impressionne du jour au lendemain. Parce qu'il m'arrive souvent de vouloir un peu lâcher sur la rigueur, mais j'ai comme compris, je me rattrape avec elle parce qu'elle, elle tient beaucoup à cette rigueur que je ne cesse de professer tous les matins chez les gens pour leur dire que le métier de journaliste, c'est un métier d'abord qui requiert vraiment la patience, la rigueur, la curiosité au sens positif évidemment du terme. Toutes ces qualités réunies ont fait d'elle quelqu'un qui qui est devenue aujourd'hui la rédactrice en chef en second, qui me seconde donc au studio Kalangu. Rahila Tsoumana, c'est une âme humainement humaniste.
Pour Madame Rahila Tsoumana, rien n'est jamais facile. Il faut que les femmes s'imposent dans les rédactions. La femme doit occuper un poste par le mérite, disait-elle.
Que pensez-vous de Rahila Tsoumana?
Formidable, je dirais. Mm-hmm. Très formidable et j'apprécie vraiment son dynamisme qui est ressorti d'ailleurs. Et je dirais la femme dans le média, vraiment, c'est au top en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec vous pour discuter sur la question de la gente féminine. Et voilà, pourquoi pas, ça veut dire que vous êtes soucieuse vraiment de la femme nigérienne et du monde en entier. Vraiment, c'est très formidable. Et je l'encourage davantage.
Et vous, Madame Kiari?
Et on a vu que la valeur n'attend pas le nombre des années et qu'elle est arrivée à son poste sans quota grâce à son courage et son entourage la respecte. Et ils ont vu que c'est une femme capable. Elle a reconnu qu'il y a des gens expérimentés dans la boîte, mais quand même, néanmoins, elle s'est forgée sa place. Donc, vous voyez que la valeur n'attend pas le nombre des années parce que ça doit être une femme très jeune. Que ce n'est pas parce qu'il y a des vieux dans la boîte et quand même, elle les a surpassés.
Mm-hmm. Madame Hawa?
Quant à moi, je me réjouis et d'avoir une femme rédactrice en chef au studio Kalangu. Ce qui veut dire que le studio a vraiment... donner une importance à la gente féminine et encore en plus,
approchez-vous,
à travers même ses propos, on sent qu'elle est vraiment expérimentée, elle s'exprime très bien et que vraiment c'est une place de mérite. Et encore une fois de plus, le témoignage de son collègue de travail qui a vraiment témoigné vraiment des aspects très positifs en elle. Et je souhaite vraiment bon vent à Madame
Rahila Tsoumana
et pour le studio Kalangu en général.
Pour terminer, je vous demanderai, Madame Kiari, quels conseils ou suggestions à l'endroit des femmes des organisations féminines à l'État pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision?
Et il ne faudrait pas qu'on se fatigue. C'est un travail qu'on a commencé. Il y a eu des avancées. Vraiment, ça a été bénéfique pour tout le monde. Il ne faut pas se décourager. Il faudrait que cette lutte féminine continue, qu'on soit soudés, qu'on soit comme un balai, comme le disent les Germains, un seul balai, main dans la main. Et nos guerres intestines, nos envies, nos petites querelles, qu'on les abandonne, n'est-ce pas, qu'on agisse de façon intellectuelle pour sortir la femme de l'ornière. Parce qu'il y a des femmes leaders qui sont cachées dans l'ombre, qui ne sortent pas. Il faudrait aussi composer avec ces femmes-là. Il faudrait doter ces femmes-là pour qu'on les connaisse. Moi, je voudrais qu'on fasse un répertoire des femmes leaders de ce pays-là, des 8 régions. Mm-hmm. Qu'il s'agisse des femmes rurales, on a vu à Hawa Bozo, il y a qui se sont démarquées, et il y a aussi Delwaize, etc. Il n'y a pas que sur le plan professionnel que la femme se démarque. La chanson aussi est une profession, n'est-ce pas? Donc il y a des femmes qui sont cachées, aussi bien rurales que citadines, qu'on les doit, qu'on les fasse sortir, qu'on fasse leur répertoire pour qu'on connaisse ces femmes-là. Qu'on fasse le portrait de ces femmes-là.
D'accord.
Je vous remercie.
Madame Hassana, vos derniers mots pour une meilleure représentation des femmes dans les instances de décision?
Ah, mes derniers mots, je dirais, surtout je mets l'accent sur le fait de s'imposer. De s'imposer, de faire preuve de capacité. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, on ne peut pas viser une place, dire genre mettre les femmes dans les instances de prise de décision alors que voilà, les femmes ne se battent pas. Pour avoir une place vraiment méritée, il faut se battre. Il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras.
D'accord. Et vous, Madame Hawa, pour conclure?
Et pour conclure, vraiment, j'exhorte toutes les femmes vraiment à faire preuve de dynamisme et de solidarité, d'entraide et aussi beaucoup de courage. Des femmes dans des espaces sans violence, sans discrimination et vraiment avec beaucoup de courage. Je vous remercie.
D'accord. Nous sommes au terme du forum Espace Femmes du studio Kalangou qui a débattu ce soir sur le thème femmes et gouvernance, les femmes dans les instances de décision. Quelles sont les avancées? Je rappelle que nous étions avec Mme Hassana Fall, chef de projet à l'ONG Femmes, Action et Développement, en compagnie de Mme Thierry Falmata de la société civile. Et enfin, nous étions avec Mme Hawa Sadou Amadou de la direction de la protection des droits des femmes au ministère de la promotion des femmes et de la protection des enfants. Merci à vous, chers invités. Merci également à vous de nous avoir suivis dans les 8 régions du Niger grâce à nos 52 radios partenaires et sur notre site internet. Bouclons cette émission avec la rubrique Loti qui informe et sensibilise en humour. Merci et au revoir.
Affairage, 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 affairage.
Chercher la fille là. Qu'est-ce que je vais dire à son papa? Si je savais, je n'allais même pas l'envoyer au marché. J'aurais dû aller moi-même faire mes courses. Regarde, depuis ce matin jusqu'à présent, Jamila n'est pas de retour.
Fanta! Fanta! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme ça toute seule? Je pensais que tu t'adresses à quelqu'un d'autre.
Hé, mon ami, c'est Jamila que j'ai envoyé au marché depuis ce matin. Elle n'est toujours pas de retour.
Quoi? Comment? Et tu restes là? À pleurnicher? Tu as au moins informé son papa.
Hé, hey, l'arabe, épargne-moi, s'il te plaît. Informer qui? Son père? Tu veux la fin de mon mariage ou bien? Si par hasard j'informe son père, lui qui m'a dit de ne plus envoyer ses enfants seuls au marché, comment pourrais-je l'approcher sur cette question?
Fanta, ranarwan kabab oyetibi. C'est une situation qui est là. Comment ne pas informer son père? Que Dieu nous en garde. Et si quelque chose lui arrive? Que vas-tu faire? Tu vas continuer à lui cacher? Hé, hey, appelle vite son père. Entre-temps, essaie aussi avec ses copines. Tu as des contacts, j'espère.
Oui, prends le téléphone. Tu verras tous les noms qui commencent par ami. C'est pour ses amis. Je vais encore vérifier à la porte si elle est en train de venir.
Laisse, je vais vérifier si elle n'est pas chez une d'entre elles.
Mon ami, wallahi, elle n'est pas là. J'ai même demandé à ses copines du quartier. Elles l'ont aperçue depuis ce matin leur disant qu'elle va chez son amie pour l'accompagner faire les courses au marché.
Ah, voilà une piste. Parmi ses amies, qui sont celles qui habitent dans les quartiers?
J'en connais une qui est dans le troisième virage là, juste là-bas. C'est l'amie-ci. Allons voir chez elle. Espérons qu'elles sont là-bas.
Ok, allons-y. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah, te voilà enfin. Donc tu as entendu ma voix et tu es sorti subitement. C'est quoi ces manières? Depuis ce matin qu'on t'a envoyé, c'est maintenant que tu reviens. Et ça aussi, il faut qu'on te charge. Tu te rends compte de ce que tu as fait et tu nous as mis dans l'embarras. Ta pauvre maman malade, elle a failli piquer une crise de tension. Haba.
Pardon, Tanti. Wallah, je n'ai pas fait ça exprès. On a fini les courses depuis ce matin. Mais c'est mon ami qui n'a pas trouvé l'uniforme à temps. Et c'est ça qui a fait que nous avons fait plusieurs machines. C'est au machin de Ntila qu'on a pu trouver l'uniforme. Vraiment, toutes mes excuses. J'aurais dû vous appeler pour vous informer.
Vraiment, c'est ça que tu devrais faire. Désormais, si toutefois tu te retrouves dans des situations pareilles, le mieux c'est d'informer sur le champ, même si tu dois prendre le téléphone de ton ami.
Inch'Allah, Tanti. Moi-même, ça m'a échappé. Je ne manquerai pas la prochaine fois. Vraiment, Tanti, pardonnez-moi, s'il vous plaît.
Vraiment, la fille a failli me tuer. Avec tous ces enlèvements, ces disparitions d'enfants, Dieu est grand. Plein de choses me sont venues à l'esprit. Comme l'a dit ta tante Laraba, tu dois faire très attention. Chaque fois que tu te retrouves dans une situation pareille, le mieux c'est d'informer. Comme ça, nous ne serons pas paniqués. Ces derniers temps, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Le monde est devenu ce qu'il est. Les gens sont capables de tout.
pour se procurer de l'argent. Ils vont jusqu'à faire des trafics d'êtres humains.
Tu ne sais même pas. Rien que la semaine passée, des hommes ont voulu enlever la fille de la voisine et son amie en partance pour l'école. Heureusement que la petite a crié au secours et les deux individus ont pris la fuite. C'est pour cette raison, à chaque fois que je trouve un temps libre ou bien aux heures de dîner, je profite pour attirer leurs attentions. Primo, ne jamais accepter un cadeau venant de quelqu'un que vous ne connaissez pas. De ne jamais accepter l'invitation d'un copain, que ça soit chez lui ou bien chez quelqu'un d'autre. Faut jamais se hasarder à aller chez lui. Au contraire, c'est à lui de venir te rendre visite.
Dieu est grand. Wallahi, tu as parfaitement raison. Nous, parents, on doit redoubler de vigilance. Il faut toujours appeler aux enfants de faire très très attention et de savoir où mettre les pieds. C'est l'unique solution pour le moment.
Tu as vraiment raison, ma chère amie. Prudence avant tout. Le bon Dieu nous protège et qu'il protège nos enfants.
Amin ya Allah, ma chère.
J'espère que maintenant tu vas appeler son père.
Ah oui, bien sûr.